Vous écoutez, on lit pour vous.
Des traitements qui pourraient sauver des vies. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse. Après des décennies de statu quo, des traitements inespérés ont délivré des centaines de Québécois d'idées suicidaires jusque-là indélogeables. Propager la nouvelle est urgent, afin d'éviter des conséquences graves et irréversibles. Plaide des psychiatres, car le Canada a prévu devenir en mars le 5e pays au monde à permettre l'aide médicale à mourir pour troubles mentaux incurables. Éviter des conséquences graves et irréversibles. Au téléphone, la voix de Nancy Lapointe se brise en évoquant ce qu'elle a chuchoté à l'infirmière qui l'a préparée à recevoir des électrochocs pour la énième fois. « Peux-tu faire une erreur médicale, s'il te plaît, et juste me laisser partir ?» Pendant 5 ans, la blonde résidente de Terrebonne avait tout essayé pour éliminer la dépression. Un médicament par-dessus l'autre, les électrochocs, en vain. L'électroconvulsivothérapie provoquait trop de pertes de mémoire chez Mme Lapointe, mais cette intervention de dernier recours est efficace chez environ la moitié des patients. « Je souhaitais qu'on me trouve un cancer incurable, que l'aide médicale à mourir, AMM, devienne possible pour les personnes avec des troubles psychiatriques comme moi. » À moins d'une volte-face d'Ottawa, le second vœu de Nancy Lapointe se réalisera le 17 mars prochain. Les Canadiens anéantis par des souffrances mentales insoutenables et indélogeables deviendront alors admissibles à l'aide médicale à mourir, comme le sont depuis déjà quelques années les gens frappés de maux physiques semblables et les gens en fin de vie. Le gouvernement du Québec a toutefois changé sa loi en juin pour s'assurer qu'une telle chose ne se produise pas dans son réseau de la santé. Mais Mme Lapointe a de toute façon cessé de planifier sa disparition. En 2020, un anesthésique qui provoque la dissociation, la kétamine, a dissous ses idées suicidaires en un éclair, dans un petit local du centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Presque d'un seul coup, après 2 perfusions, j'ai eu envie de retrouver mes filles. Ça m'a renversé parce que même voir les gens que j'aime ne m'apportait aucun plaisir depuis des années, se souvient Nancy Lapointe. Pour éviter une rechute, Nancy Lapointe a dû enchaîner de nombreuses prises de kétamine pendant 1 an. Le temps d'arriver à obtenir une opération rare qui a amélioré plus durablement le fonctionnement de son cerveau avec un implant fixé près d'un nerf. Aujourd'hui, l'ex-inhalothérapeute travaille dans un nouveau domaine. Elle qui avait pourtant été déclarée invalide à vie. Éphémère mais extraordinaire. Depuis quelques années, un nombre croissant de Québécois s'extirpe du désespoir, au moins temporairement, grâce à des interventions de pointe ou expérimentales. Kétamine, neuromodulation, avec ou sans implant, substance hallucinogène. Les cliniciens doivent absolument disposer de données récentes et fiables sur tous les traitements potentiels avant de faire face aux nouvelles demandes d'aide médicale à mourir, plaident donc 2 psychiatres dans une étude de cas publiée l'automne dernier. En moins de 2 semaines, un cocktail de kétamine et de psychothérapie intensive a mis fin à 15 ans d'idées suicidaires continues chez une patiente de l'Hôpital général juif de Montréal, expose l'article des docteurs Nicolas Garel et Kyle Greenway. Après avoir demandé l'aide médicale à mourir à 2 reprises, la sexagénaire a retiré sa requête et s'est rapprochée de son fils et de ses petits-enfants. Déclarer une maladie incurable avant d'avoir sérieusement considéré toutes les options pourrait avoir des conséquences graves et irréversibles, selon les psychiatres Nicolas Garel et Kyle Greenway. La kétamine n'est pas une intervention miraculeuse à laquelle tout le monde répond, mais pour certains patients, elle va l'être, ajoute le docteur Nicolas Garel en entrevue. Le défi consiste à maintenir la magie, prévient-il. Autrement, l'effet antidépresseur ne dure que quelques jours. Ensuite, la majorité des gens retombent. Donner de la kétamine sans arrêt est impensable. Ce serait trop lourd pour le réseau et potentiellement trop risqué, car cette substance peut provoquer la dépendance et causer alors des lésions à la vessie et des troubles cognitifs. L'acteur vedette de la série télé Friends, Matthew Perry, est mort noyé après en avoir consommé. Avec une approche plus sûre et plus globale, 30% des personnes souffrant de dépression hyper-réfractaires traitées à la kétamine peuvent toutefois reprendre le travail ou une vie digne de ce nom, affirme le docteur Kyle Greenway, qui a peaufiné cette formule à l'hôpital général juif avec le docteur Garrel. Vous écoutez « Des traitements qui pourraient sauver des vies », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 21 janvier 2024 dans la presse. Chaque semaine, le psychiatre Kyle Greenway traite jusqu'à 6 patients avec de la kétamine à l'Hôpital général juif de Montréal. Nous devons nous concentrer sur les patients dont l'état est le plus grave, précise-t-il. Souvent, ils n'ont pas répondu à l'électroconvulsivothérapie, ont déjà pris 20 médicaments, ont déjà été hospitalisés, ont pris part à des programmes de jour, etc. C'est énorme, dit-il. Peu importe le traitement. On s'attend normalement à des bénéfices aussi remarquables chez seulement 2% ou 3% de ce type de patients. Le docteur Paul L'Espérance, qui a traité Nancy Lapointe au CHUM, partage cet enthousiasme. En 25 ans de pratique, je n'avais encore jamais vu quelque chose qui marche comme la kétamine. L'effet est éphémère, mais c'est extraordinaire à observer. Ça permet à certaines personnes de sortir d'un cercle vicieux où elles dormaient, restaient chez eux, s'isolaient, n'avaient envie de rien et n'avaient donc plus de source de valorisation. En général, le docteur L'Espérance essaie d'abord la stimulation magnétique transcrânienne qui permet de réactiver le cerveau ou de l'apaiser en lui acheminant du courant sans électrochoc. Avec l'aide de ses infirmières, le programme qu'il dirige a pris de l'ampleur et fait des petits en région. Malheureusement, le patient et le système de soins finissent par avoir une perspective un peu défaitiste quand, peu importe le traitement, rien ne fonctionne. À cause de ce phénomène d'inertie thérapeutique, énormément de gens qui ont des dépressions chroniques ne se font pas offrir d'intervention avancée, nous dit le docteur Paul L'Espérance. La vie doit avoir un sens. Comment réagir lorsqu'un patient se voit offrir un traitement prometteur, mais insiste pour qu'on l'aide plutôt à mourir? S'il n'a pas déjà un long parcours de soins, sa souffrance ne pourra pas être jugée irrémédiable, une exigence légale. Devant un refus, on explique à la personne pourquoi elle a encore des chances de se rétablir et on laisse la vie se poursuivre sans rien forcer, expose la docteure Mona Gupta, psychiatre au CHUM et ex-présidente du groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale. Souvent, la personne revient d'elle-même sur sa décision, parfois encouragée par sa famille. Même après des décennies d'échecs thérapeutiques, trancher risque de demeurer délicat, car les médecins craignent que la dépression grave n'induise des idées noires démesurées qui brouillent le jugement. Des chercheurs de Toronto ont eu l'idée de faire disparaître ses pensées avec de la kétamine pour vérifier si le désir d'obtenir l'aide médicale à mourir s'envolait du même coup. La bioéthicienne Marie-Alexandra Gagné n'a rien contre un tel test, à condition qu'il ne serve pas de raccourci et ne devienne pas un prérequis à l'aide médicale à mourir. On ne peut pas forcer les gens à subir des interventions qu'ils jugent contre leurs valeurs ou intolérables, surtout quand on ne connaît pas encore les risques à long terme, rappelle Marie-Alexandra Gagné. Qu'un patient souffre de cancer ou de dépression, peu importe, respecter ses limites et son autonomie décisionnelle est essentiel, dit Mme Gagné, qui est aussi conseillère en éthique clinique et organisationnelle dans le réseau de la santé. Certaines personnes ont testé presque tous les traitements au fil des ans. Elles sont épuisées, n'y croient plus et nous ne pouvons pas les obliger à essayer toutes les thérapies expérimentales ni à continuer de vivre avec leur souffrance en espérant que la science trouve peut-être un remède dans 10 ans. Parfois, mourir répond vraiment aux besoins et aux valeurs de la personne qu'il demande parce qu'elle ne peut plus pratiquer les activités qui donnaient un sens à sa vie. Aura-t-on les ressources? Comme la chimiothérapie, les perfusions de kétamine se donnent lentement et sous surveillance. Dans certains services, un psychiatre offre aussi un soutien psychologique avant et après les séances, parfois même pendant. La facture gonfle vite. Mais l'inaction peut s'avérer plus coûteuse encore, souligne le docteur Kyle Greenway de l'Hôpital général juif. Des patients traités avec notre approche étaient hospitalisés plusieurs mois par année auparavant, et ils ne le sont plus. Puisque chaque nuit à l'hôpital coûte 2 000 $, dit-il, chaque rétablissement semblable peut représenter une économie de centaines de milliers de dollars. Des opposants à l'aide médicale à mourir craignent tout de même que des gens désespérés se rabattent sur cette dernière option faute de soins adéquats. Un scénario jugé improbable par la docteur Mona Gupta du CHUM. L'accès devrait être meilleur, surtout en première ligne. Mais les patients les plus souffrants sont dans une autre situation, puisqu'ils sont en haut de la liste pour les traitements novateurs et prometteurs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a pour sa part écrit au sujet de l'emploi actuel de ces approches qu'il est crucial que les médecins informent leurs patients des options disponibles, mais nomme explicitement les limitations et les cadres dans lesquels ces traitements peuvent être offerts. Il ajoute reconnaître l'importance de poursuivre la recherche sur les traitements émergents et s'appuyer sur l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux pour envisager leur utilisation courante ou dans le réseau public. Je vous rappelle que vous écoutez « Des traitements qui pourraient sauver des vies », un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse. De potentielles planches de salut. Les psychiatres disposent de plus en plus d'outils pour réduire la souffrance psychologique profonde et les idées suicidaires qui pourraient pousser certaines personnes à demander l'aide médicale à mourir. À quel point les nouveaux traitements sont-ils efficaces et accessibles? La kétamine. La kétamine est un anesthésique et analgésique à action rapide, utilisé depuis les années 1970. Des chercheurs ont découvert en 2000 qu'elle pouvait soulager la dépression, mais n'agit pas sur le même type de neurotransmetteur que les antidépresseurs. On pense qu'elle permet de créer de nouvelles connexions dans le cerveau de manière transitoire, précise le psychiatre Nicolas Garel. Elle semble aussi faciliter et accélérer la psychothérapie. Efficacité. Après une demi-douzaine de perfusions, le tiers des gens souffrant de dépression hautement réfractaire voient disparaître leurs idées noires. Un autre tiers ressent certaines améliorations. Des doses de rappel sont souvent requises pour éviter une rechute. Déroulement. Les signes vitaux des patients sont surveillés pendant que la kétamine est administrée. À l'origine, la majorité des médecins misaient seulement sur la substance elle-même, mais pour maintenir ses effets. D'autres l'utilisent désormais comme tremplin. Les patients doivent profiter du soulagement procuré pour surmonter leur blocage en psychothérapie et pour renouer avec des comportements sains comme bouger, socialiser, dormir. Cette approche des docteurs Nicolas Garel et Kyle Greenway suscite un intérêt croissant. Accès. Depuis 3 à 5 ans, plusieurs dizaines de grands dépressifs ont reçu de la kétamine à l'Hôpital général juif de Montréal, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, ou à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Beaucoup d'autres hôpitaux sont en train de s'organiser pour en offrir, mais, vu le besoin de personnel et de psychothérapie, C'est moins simple que ça semble être en surface, indique le psychiatre Paul Espérance du CHUM. La stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne nécessite une bobine électromagnétique qui induit un courant électrique dans le cerveau. Ce courant sert à énergiser ou quelquefois à apaiser les neurones. Cela les aide à mieux jouer leurs différents rôles, comme réguler les émotions et les pensées. Efficacité. Après plusieurs séances, une personne sur deux se remet de la dépression résistante au traitement et les effets sont assez rapides et cumulatifs, affirme le docteur L'Espérance. Recommencer la stimulation permet en général de rebondir en cas de chute. Déroulement. Les patients s'allongent dans un fauteuil. La prise de mesure permet de calibrer l'appareil et de cibler la bonne zone avec la bonne intensité. Pendant la stimulation, qui dure quelques minutes, certains ont l'impression qu'un oiseau picore leur crâne ou sentent les muscles de leur visage se crisper. D'autres ressentent un inconfort important. Accès. La stimulation transcrânienne a bénéficié en 2022 à 425 Québécois soignés dans 10 hôpitaux répartis dans 6 régions. Dans un monde idéal, elle serait offerte dans tous les CLSC et les cabinets de médecins de famille, affirme le docteur Jean-François de la Sablonnière, psychiatre responsable de ce traitement à Rivière-du-Loup. Le traitement est simple, efficace, sécuritaire et plus à même de conduire à une rémission que les médicaments. L'implant du nerf vague. Un générateur d'impulsion électrique semblable au pacemaker achemine du courant aux neurones par l'entremise du nerf vague. Leur excitation répétée corrige graduellement leur fonctionnement d'une manière qui reste en partie mystérieuse. Efficacité. Un an après l'implantation, un grand dépressif sur deux entre en rémission et les effets s'accroissent avec le temps, affirme le docteur L'Espérance. Bien qu'invasive, l'intervention est justifiable lorsqu'une personne ne cesse de faire de graves rechutes. L'implant peut être retiré quand il se révèle inefficace. Déroulement. Une brève opération sous anesthésie générale permet d'implanter le stimulateur. Après la cicatrisation, il émet du courant toutes les 5 minutes pendant 30 secondes, durant lesquelles la voix peut devenir plus basse et le souffle plus court. Accès. Des chirurgiens du CHUM et du CHUT Québec offrent cette opération, tandis que l'évaluation, la préparation, l'accompagnement et le suivi des patients relèvent de psychiatres établis à Montréal, à Québec ou dans le Bas-Saint-Laurent. Quelques dizaines de personnes ont tiré profit de cette intervention ces dernières années. La psilocybine. La psilocybine est extraite de champignons hallucinogènes. Bien qu'illégale, elle peut être utilisée de façon expérimentale pour soigner différents troubles psychiatriques. Efficacité. Des essais cliniques permettent de croire que la psilocybine pourrait traiter la dépression résistante, le trouble obsessionnel compulsif, la toxicomanie et l'anxiété ressentie en fin de vie. Les preuves restent toutefois limitées selon Santé Canada. Déroulement. La psilocybine exige beaucoup de travail psychothérapeutique pour préparer la séance, qui dure 6 heures, puis pour intégrer ses bienfaits dans sa vie. Prévient le médecin de famille et en soins palliatifs, Ouman Farzin, qui en a administré à l'hôpital général juif. Parfois, une seule séance suffit, parfois, il faut en faire une tous les 6 mois, dit-il. Accès. Puisque la psilocybine est un traitement prometteur, les médecins peuvent s'adresser à Santé Canada pour en prescrire au cas par cas quand rien d'autre ne fonctionne. Si une personne est assez malade pour être admissible à l'aide médicale à mourir, elle sera très probablement admissible au programme d'accès spécial, croit le docteur Farzin. Mais si ce n'est pas fait correctement, sur la bonne personne, dans le bon contexte, cela peut causer du tort, dont des psychoses. Vous écoutez « Des traitements qui pourraient sauver des vies », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 21 janvier 2024 dans La Presse. La MDMA. La MDMA est une drogue de synthèse hallucinogène et stimulante, prohibée, mais utilisée de façon expérimentale. Elle provoque l'euphorie, la confiance et le rapprochement. Mais les mélanges appelés « ecstasy » vendus sur le marché noir peuvent aussi causer la panique, la dépression et le délire. Efficacité. D'après de nombreuses petites études, la MDMA permet de soulager le trouble de stress post-traumatique chez certaines personnes. Quelques participants aux essais ont toutefois déclaré publiquement que leur traitement n'avait fait qu'aggraver leur état. Déroulement. De façon semblable à la psychothérapie, assistée par psilocybine. Accès. En utilisant le programme d'accès spécial de Santé Canada, comme pour la psilocybine. Il est toutefois possible que la MDMA puisse être prescrite par des médecins américains à partir de 2024, comme elle l'est déjà en Australie, indique le docteur Farzin, car une demande d'autorisation a été déposée auprès des autorités. 5 clés pour comprendre le défi qui s'annonce. Le milieu de la santé se prépare depuis 3 ans à accorder l'aide médicale à mourir pour troubles mentaux incurables, comme le font déjà 4 petits pays européens, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et le Luxembourg. Une psychiatre et une bioéthicienne de l'Université de Montréal, UdeM, décortiquent cette pratique qui s'annonce complexe. 1. C'est le tribunal et non le gouvernement qui a fait élargir l'aide médicale à mourir aux gens qui sont très souffrants mais loin de la mort. Pendant 7 ans, de 2014 à 2021, seuls les Québécois en fin de vie pouvaient demander l'aide médicale à mourir. Les gens atteints de maladies non fatales mais incurables et graves ont dû s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir eux aussi le droit d'avoir une mort digne et sereine. Leur souffrance, leur dignité et leur autonomie doivent être reconnues à égale mesure pour ne pas brimer leur droit à la liberté et à la sécurité, dit le jugement. Un groupe pancanadien d'experts, présidé par la docteure Mona Gupta, psychiatre au CHUM, a ensuite aidé Ottawa à établir la façon d'encadrer cette pratique élargie. 2. La souffrance engendrée par certaines maladies mentales est parfois aussi inapaisable que la souffrance physique. Un trouble sévère et grave, peu importe qu'il soit physique ou mental, peut causer beaucoup de symptômes et de souffrances quasi continues malgré de nombreux traitements, indique la docteure Gupta. Mais pour laisser le milieu de la santé se préparer à la grande complexité des demandes d'aide médicale à mourir pour trouble mental, seules les personnes physiquement malades ont bénéficié jusqu'ici de l'élargissement ordonné par la Cour. 3. Une personne en crise suicidaire ou en dépression passagère ne recevra pas l'aide médicale à mourir. Seules les personnes dont le déclin est avancé et irréversible peuvent recevoir l'aide médicale à mourir, précise la docteure Gupta. Ça prend un très long parcours de soins adéquats avant de conclure que les traitements ne fonctionnent pas. On ne peut pas établir un nombre minimal d'interventions, mais les essayer vraiment bien prend des décennies. La bioéthicienne Marie-Alexandra Gagné, chargée de cours à l'UdeM et conseillère en éthique clinique et organisationnelle dans le réseau de la santé, souligne par ailleurs que, depuis la nuit des temps, les patients demandent à mourir sans forcément le souhaiter à proprement parler. Ça peut être une façon de dire « Je veux arrêter de souffrir ». Il faut faire la différence, dit-elle. 4. Les demandes d'aide médicale à mourir pour trouble mental seront sans doute difficilement accordées. Les Pays-Bas refusent 95% des demandes d'aide médicale à mourir pour maladies psychiatriques, rapporte la docteure Gupta. Au Québec, quelques dizaines de personnes pourraient y être admissibles chaque année, avance-t-elle. Devoir déclarer un trouble mental incurable peut néanmoins créer un malaise chez les professionnels de la santé, observe Mme Gagné, qui s'intéresse à leurs préoccupations dans le cadre de son doctorat. Les nouveaux cas accroîtront encore plus l'ambiguïté, les questionnements et les difficultés sur le terrain, dit-elle. D'après le Collège des médecins, plusieurs médecins craignent que la Commission sur les soins de fin de vie leur reproche d'avoir pris une mauvaise décision et que cela entraîne des représailles disciplinaires. 5. Les trous dans le filet social complexifient l'octroi de l'aide médicale à mourir. Quand la demande d'aide médicale à mourir provient d'une personne défavorisée d'un point de vue socio-économique, qui n'a pas forcément accès aux meilleurs soins, ça peut rendre les professionnels très mal à l'aise et engendrer des hésitations, constate aussi Mme Gagné. En même temps, cette personne souffre et ne pourra peut-être pas sortir de cette réalité sous-optimale de son vivant. L'enchevêtrement de facteurs complique donc l'analyse et alimente parfois la controverse. Des Canadiens ont, par exemple, sollicité l'aide médicale à mourir pour échapper à de graves maladies en déclarant que le manque de services à domicile ou un transfert d'établissement avait rendu leur sort encore plus invivable. Exigence requise pour qu'un malade reçoive l'aide médicale à mourir. Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Être majeur. Être apte à consentir aux soins. Être atteint d'une maladie grave et incurable. Avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'il juge tolérables. En savoir plus, source, Commission sur les soins de fin de vie Québec, 5% proportion de gens qui n'étaient pas sur une trajectoire de mort prévisible parmi les Québécois ayant obtenu l'aide médicale à mourir en 2022-2023. 19. Nombre total d'actes d'aide médicale à mourir ayant été jugés non conformes parce que la personne n'était pas atteinte d'une maladie physique grave et incurable. 0,5%. Proportion de demandes d'aide médicale à mourir ayant été acceptées au Québec sans respecter toutes les exigences légales en 2022-2023. C'était « Des traitements qui pourraient sauver des vies », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 21 janvier 2024 dans La Presse.